France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin. Jean-Luc Gadreau pour vous accompagner dans ce Solael, rendez-vous protestant, qui vous est proposé comme chaque dimanche par la Fédération protestante de France. Pour ce dernier dimanche de mars, en pleine période de carême, je reçois un collègue journaliste, grand reporter au quotidien La Croix, pour qui justement ce temps du calendrier liturgique fait résonance inévitablement avec son histoire, et en particulier celle qu'il raconte dans son livre « Les heures décisives » aux éditions des Clés de Brouwer. Cet homme, mon invité du jour, c'est Stéphane Bataillon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bienvenue dans Solae.
Merci.
Nous allons parler de ce livre que je viens d'évoquer avec lui, de votre parcours, de ce que l'on pourrait appeler une vraie expérience spirituelle. Mais avant, comme j'en ai l'habitude dans cette émission, prenons quelques instants pour faire un peu plus connaissance. Alors, j'ai dit que vous étiez journaliste, grand reporter à La Croix. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste rapidement ?
J'ai la grande chance de pouvoir enquêter en fait sur les sujets qui me tiennent le plus à cœur et qui correspondent aussi à ce qu'essaye de développer La Croix. Oui. C'est-à-dire des sujets autour de la spiritualité, une spiritualité d'aujourd'hui vécue, qui doit jouer beaucoup aujourd'hui entre la tradition, la modernité et souvent aussi une sorte d'ignorance de plus en plus grande des gens, donc un besoin très fort de pédagogie. Et ce que j'essaye de faire, c'est de tisser des liens entre spiritualité et pop culture. Comme par exemple, enquêter sur la spiritualité du Seigneur des Anneaux ou d'Harry Potter.
Ouais, ouais. Donc, vous partez en enquête
en enquête, soit documentaire, en allant interviewer des spécialistes, soit moi-même en allant vivre des expériences, comme c'est le
comme
cas
on
ici.
Va en parler tout à l'heure avec les heures décisives. Ouais, on a un peu ce point commun, Stéphane, dans la manière de nous présenter. Moi, j'aime à dire personnellement que mon travail me conduit à naviguer justement entre culture et église, entre culture et foi, culture et spiritualité. Et c'est comme vous venez de le dire, ainsi que vous aussi vous présentez votre travail sur votre site internet, notamment, c'est ce qui est mis.
Ah, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment, je découvre en même temps, alors peut-être un peu avant les lecteurs, mais je prends un immense plaisir à aller de découverte en découverte, en fait, et de garder cette forme de candeur lucide pour pouvoir tirer les informations essentielles pour expliquer à celui qui va me lire ou m'écouter.
Qu'est-ce qui vous semble important dans ce lien entre culture et foi, justement ?
Pour moi, la foi est une manière d'ouvrir à toutes les cultures du monde. Découvrir les civilisations, les façons de penser, les façons aussi de s'opposer, qui sont aussi intéressantes. C'est vraiment le point à partir duquel ma découverte, alors j'aime bien dire grand reporter des spiritualités, je passe sur des terrains de guerre, comme d'autres collègues, je reste un peu immobile, ou en tout cas dans des lieux où le silence
plus
est
protégé,
plus protégé.
Plus calme.
Mais il y a vraiment une découverte intérieure qui se réalise.
Et des combats aussi qui peuvent se mener. Donc.
Et des combats, et un combat pour le silence, pour la nuance, qui est très important aujourd'hui.
Vous pouvez nous livrer un sujet là sur lequel vous travaillez en ce moment, par exemple ?
Alors, en ce moment, je travaille sur la spiritualité de C.S. Lewis, l'auteur du monde de Narnia. Un peu méconnu en France, un peu éclipsé par Tolkien.
Ils étaient amis, mais c'est vrai que on parlait un peu moins de C.S. Lewis, alors que c'est dans le monde anglo-saxon une référence
très
immense.
Immense en tant qu'apologète et en tant que romancier.
Et puis il y a le monde de Narnia, mais il y a bien d'autres livres aussi.
La tactique du diable. Voilà. Donc j'essaye. Voilà, je me plonge dans son œuvre en ce moment et je vais essayer d'en sortir ce qui était pour lui sa vie intérieure. Ouais. Qu'est-ce qui était important dans une vie de chrétien?
Alors journaliste, mais aussi poète, à plusieurs titres d'ailleurs, comme auteur avec plusieurs ouvrages de poésie à votre actif, mais dans le journal La Croix également, où vous présentez de temps en temps des poèmes.
Toutes les semaines. J'essaie une page entière, la dernière page de l'hebdomadaire.
Oui, c'est dans l'hebdo.
La plus lue. En tout cas, les gens commencent souvent par la fin. Et depuis presque 300 numéros maintenant, je présente un poème en entier, poème contemporain, que j'encadre par un petit commentaire. Voilà, c'est aussi une façon de transmettre la parole, pour moi, qui est importante.
Et plus encore avec peut-être Gustave, un magazine numérique tout entier consacré à la poésie. Vous faites aussi de la radio, alors sur une autre radio, sur RCF. Oui. Enfin, voilà, la poésie, c'est un peu votre terrain de jeu, le lieu de votre épanouissement, j'ai l'impression.
C'est ça, à la fois terrain de jeu et source. Oui. En fait, tout revient à la poésie et tout part un peu de la poésie. J'ai commencé la poésie sur Internet, par un blog, il y a exactement 20 ans, en 2005. Voilà, où je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Ouais. Un peu comme la foi, ça m'a amené vers des horizons que je ne soupçonnais pas. Et finalement, aujourd'hui, alors que je n'ai jamais voulu devenir poète, ça structure un peu ma vie.
Et... Ouais, ouais. Et d'ailleurs, la poésie imprègne votre écriture. On en reparlera tout à l'heure avec les heures décisives. Il y a des moments aussi où la poésie s'invite d'une certaine façon. Si je vous dis « marcher sur le chemin détrempé par la pluie, se contenter de l'odeur des sols et des reflets du temps, d'un mouvement dans l'air, je trace des sillons pour permettre aux étoiles de respirer un peu. » C'est le poème qui donne son titre à votre dernier recueil de poèmes, « Permettre aux étoiles » aux éditions Bruno Doucet.
Tout à fait, édition à qui je suis fidèle depuis le début de ma carrière.
Tous vos recueils de poèmes sont là.
C'est à la fois mon éditeur et mon ami, et ça compte l'amitié en poésie. Il m'a vraiment aussi accompagné sur ce chemin. Voilà, alors ce rapport entre la nature, le retour à une sorte d'émerveillement, qui passe par les mots et qui a besoin des mots. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai dans ma tête l'idée d'un poème que je vais peut-être être plus attentif à ces petits détails comme le sol détrempé. Voilà. C'est une manière de s'émerveiller du monde.
Et quelque part, j'ai le sentiment en tant que lecteur de ce que vous écrivez, toujours une forme d'ouverture. Ce ne sont pas des poèmes clos en quelque sorte, mais quelque part, chacun peut y mettre aussi du sien et prolonger ou écouter d'une façon ou d'une autre.
Oui, j'essaye toujours de mettre des silences dans mon poème, de pas trop en dire, de créer la relation finalement entre moi, le poème, et celui qui le reçoit, pour qu'il y ait un écho, pour qu'il y ait un rebond. Je pense que la poésie, à la différence d'autres littératures, n'est pas là pour raconter une histoire, mais vraiment là pour éveiller quelque chose en nous, de puissant, de profond, qui doit entraîner une émotion, mais qui doit aussi entraîner une réponse. Et c'est cette réponse-là, finalement, que je ne reçois pas forcément, mais qui me semble... peut-être un peu comme les prières des moines, nécessaires au monde.
Alors là, on s'avance un peu vers ce qui va être le cœur de notre discussion dans quelques instants. Mais avant d'échanger autour de ce livre, Les Heures Décisives, une pause musicale courte, mais qui devrait, par son texte, nous donner d'entrer aisément dans le propos des Heures Décisives. Sur l'album Degré de John Featherstone, la chanson Devant toi, interprétée par Pascal Benman.
Je
reconnais que tu peux tout. Et puis un peu plus loin, le refrain continue avec « Alors ma vie s'ouvre à ta grâce, ma peine, ton pardon l'efface, et maintenant libérée, ma vision est restaurée. » Est-ce que ça n'est pas un peu finalement le résumé de votre expérience? Ça pourrait être vos mots, ceux qui se cachent derrière ces fameuses heures décisives, une vision restaurée par une expérience vécue dans la rencontre avec Dieu?
Oui, absolument pas prévu finalement. Enfin, prévu dans le sens où...
Programmé.
Programmé, ouais. L'expérience était programmée. Mais voilà, c'est l'inattendu de la rencontre aussi. Que ce soit avec Dieu ou avec les gens qu'on rencontre au fil du chemin.
Forcément.
Voilà, forcément. c'est peut-être ça le christianisme. Ouais. Et ça qui est beau.
Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch du livre rapidement? Alors, comme un bon journaliste?
Très bien. En fait, c'est la fusion de deux reportages que j'ai fait pour la Croix l'Hebdo. Vraiment une retraite spirituelle au monastère de Landévennec, en Bretagne, pendant une semaine de silence et de rencontres. Et puis une semaine, un an plus tard, de jeûne. Donc on est en plein carême.
Eh oui, là,
un
jeûne
hydrique, comme on dit. Hydrique, c'est-à-dire que des tisanes, de l'eau, et spirituel, avec beaucoup de méditation.
Sur combien de temps, le jeûne?
Sur une semaine.
Une semaine.
Une semaine. Voilà, deux expériences, et au milieu, quelque chose. Donc ces deux expériences étaient prévues.
C'était donc reportage pour le travail.
On est dans l'immersion,
le travail, dans le cadre du travail.
Et entre les deux, un désir revenu de me faire baptiser. Parce que si je suis protestant depuis mon adolescence, j'y suis venu par un ami, et en fait, mes parents, moi, n'étaient pas baptisés, ne m'ont pas fait baptiser. Et j'ai découvert le protestantisme à travers l'amitié, et j'avais pas passé le pas, finalement. Et voilà, ces expériences, je pense, ont été... La retraite spirituelle m'a amené au désir du baptême. Elle a nourri, et le lendemain du baptême... Je suis parti pour la semaine de jeûne.
Et donc voilà. C'était vraiment très intéressant. Lié. Pas de livre prévu à la base,
non.
Mais finalement, comme vous travaillez et que vous écrivez tous les jours, donc pour ces reportages que vous effectuez, va venir l'envie d'aller plus loin et de livrer tout ça sous forme de
livre. Voilà, d'en faire un livre et d'amener en fait le lecteur avec moi, ce que moi j'avais cherché un peu à travers ces expériences spirituelles, c'est-à-dire une sorte de retraite par le livre, et un jeûne aussi, alors pas vraiment, il faut l'expérimenter, mais une traversée.
Vous parlez de quête de sens dans la présentation du livre, c'est ce qui accompagne aussi.
C'est ce qui accompagne, c'est ce qui me semble, moi, de tous les gens que je rencontre, surtout depuis le Covid, un retour en force de cette question-là pour chacun, une quête de sens dans un monde où tous les sens sont possibles. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle.
Oui. On en parlait récemment.
Tout est faisable, tout est possible. Où aller? Donc cette question, elle est très forte. Elle s'accompagne plus forcément d'un support de spiritualité pour les gens. Peut-être qu'il faut arriver, peut-être avec la poésie, avec les mots, les rencontres, à relier les deux. Je pense, moi, en tout cas c'est ce que ça m'apporte, que c'est une ressource et pérenne et de paix qui est vraiment importante aujourd'hui.
Alors, trois parties, vous l'avez dit dans ce livre, la retraite, le baptême et le jeûne. Le temps est court et donc précieux dans Solae. Si je vous demandais de résumer chaque expérience vécue dans ces trois temps de cette année racontée, en quelques phrases, en commençant donc chronologiquement par la retraite dans ce monastère de Landévennec.
Landévennec, où c'est un ami poète, le frère Gilles, qui est poète lui-même. Gilles Baudry, qui m'avait invité, qui m'avait dit pourquoi ne pas passer. Alors peut-être ce qui peut rattacher les trois, c'est un rapport différent à la parole et au silence. Dans la retraite, c'était vraiment ces temps contraints des offices, plusieurs fois par jour, qui marquent le temps. On est obligé de s'arrêter, et moi, j'assiste à chaque office.
Et ça, c'est peut-être pas simple pour un reporter, un journaliste.
Alors, c'est pas simple. Il faut arriver à s'abandonner, à laisser de côté ses pensées, son hamster mental, et se laisser. Donc, il y a des chants, des psaumes, des homélies, plein de choses. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a, dès qu'on ressort, qu'on va se balader, qu'on prend un temps d'échange, de silence, c'est très fréquent qu'il y ait une résonance très concrète avec quelque chose qu'on vit
qu'on expérimente.
Par exemple, l'apparition d'un arc-en-ciel. Dans le ciel, immense, alors que une heure avant, on a lu quelque chose sur l'arc-en-ciel, symbole de l'Alliance. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça.
Des petits clins d'œil.
Des petits clins d'œil, voilà, et qui font joyeusement douter.
Ouais, ouais, ouais.
Sur le baptême, pareil, là, c'est plutôt... moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami pasteur, Stéphane Lavignotte, qui a cheminé avec moi pour me...
À la maison ouverte.
À la maison ouverte de Montreuil, qui est pas loin de là où j'habite. Et pareil, comme je savais que la plupart des gens que j'allais inviter à mon baptême n'étaient pas forcément sensibles au protestantisme ou ne connaissaient pas, on a vraiment aussi bâti une cérémonie d'ouverture en choisissant des textes de Martin Buber, moi des poèmes, enfin de, plein de choses.
Pour c'est ouvrir une façon ça. De découvrir.
Découvrir. Ouais. Ouais. Vraiment toujours revenir à la... C'est par la parole qu'on transmet les choses, par la parole et les regards et la poignée de main. Mais...
Et donc vous racontez votre parcours là, juste avant le baptême et le jour du baptême. D'ailleurs, vous allez assez vite, j'ai trouvé, sur le moment du baptême en lui-même.
Oui, oui, parce que...
C'est comme quelque chose de logique qui se passe et puis on continue.
C'est ça, alors que bien sûr que c'était très important pour moi ce moment.
J'imagine, oui.
Mais ça fait vraiment partie d'un fil de ininterrompu, de paroles qui se modifient, d'échanges, de... De retour aussi, pas forcément toujours calme, hein, de
bien
doute,
sûr.
On en est là, et c'est très important le doute, comme l'alternance entre parole et silence. Et puis pour le jeûne, alors là c'est une autre expérience encore.
Dernière
partie, avec beaucoup d'échanges très profonds avec les participants, puisqu'un jeûne d'une semaine, vaut mieux le faire avec d'autres personnes pour tenir, même si moi j'ai plutôt apprécié, j'ai pas eu vraiment faim.
Physiquement.
Physiquement. Mais c'est aussi une place laissée. Alors là, des silences à des paroles très profondes, à des choses qui remontent, toujours en lien avec la poésie. C'est-à-dire que c'est typiquement le matériau des poèmes. C'est-à-dire, les gens, dans des expériences comme ça, alors qu'ils peuvent paraître de l'extérieur un peu extrêmes, se livrent assez rapidement. Le fait de vivre une expérience très forte commune comme ça font qu'on s'échange très vite sur nos vies.
La Bible nous accompagne dans Sola et le rendez-vous protestant, avec le rendez-vous avec la parole, et vous avez choisi un verset très court dans l'Ecclésiaste ou le Coëlète, chapitre 9, verset 10, qui nous est lu par Lydie Jean-Théodore.
Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse, là où sont les morts que tu vas rejoindre.
Quel commentaire avez-vous envie d'apporter, Stéphane Bataillon, à ce verset ?
De l'Ecclésiaste, qui pour moi est vraiment le texte qui me suit depuis mon adolescence, que j'ai relu à toutes les périodes de ma vie, et que j'ai relu lors de mon baptême. Pour moi, c'est une liberté incroyable, et à la fois une leçon faite avec la force de tes mains, tout ce que tu as la force de faire, c'est ce qui suit. C'est une leçon à la fois d'humilité et de formidable liberté, de pouvoir avancer dans la vie en choisissant son chemin, tout en ayant conscience de ce qui nous entoure.
Un peu une règle de vie, finalement.
Ah oui, un texte source. Pour moi, vraiment, je pense que texte infini. J'adore ce texte.
Nous sommes le cinquième dimanche du mois et généralement c'est le moment pour Édouard Vandeventerre de nous offrir sa chronique écolo. Et c'est le cas ce matin, inspiré je crois lui aussi par votre livre, Stéphane, vous allez voir. Bonjour Édouard.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. En effet, à l'instar de votre invité, je crois qu'il est plus que nécessaire que chacun de nous vive des retraites spirituelles dans un contexte de crise écologique. Et oui, si on prend au sérieux l'effondrement en cours sur notre planète, en termes de biodiversité, en termes de ressources, et si on regarde les causes de cet effondrement, alors on s'aperçoit bien vite qu'il est urgent de ralentir. Et la retraite, c'est le lieu privilégié du ralentissement. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est une retraite au fond ? Eh bien littéralement, c'est se mettre en retrait. Mais alors, en retrait de quoi ? Eh bien, par exemple, en retrait de la course folle du monde vers une technologie omniprésente. En retrait du grand buffet de plastique et de sucre que nous propose la consommation. Ou encore en retrait des bruits qui polluent nos oreilles, les réseaux sociaux, les voitures, les cris de la foule. La retraite, c'est un mouvement en arrière libérateur pour l'humain moderne, qui est pris dans le grand flux du progrès et de la croissance aveugle. Un mouvement en arrière qui force logiquement à la contemplation. D'abord, contempler ce monde qui court à sa perte, le regarder tel qu'il est. Et puis ensuite, contempler toute la beauté qui réapparaît quand le silence se fait. Beauté de la nature, grâce des gestes banals et quotidiens, poésie de la lumière et des couleurs. Vivre une retraite, c'est vivre tout ça, et c'est ensuite pouvoir regarder son prochain ou sa prochaine comme un frère ou une sœur. C'est se rassembler avec ses semblables dans un même mouvement de recueillement, de prière, parfois de travail. En un mot, la retraite, en fait, c'est la communion. Communion avec soi-même, avec les autres, avec Dieu et avec le reste de la création. En fait, vivre une retraite, c'est vivre la vie telle qu'elle devrait être, non ? Ce mot de retraite, du coup, me semble un peu mal choisi, parce qu'on est en réalité pleinement soi quand on vit une telle communion. On se réalise en tant qu'être humain. On n'est pas du tout en retrait. Et d'ailleurs, ce serait même le contraire. C'est lorsqu'on ne sait plus que consommer ou que briller ou qu'accaparer que l'on se retire véritablement de notre appel de femme ou d'homme libre et incarné. Alors, retirons-nous d'un monde qui s'est lui-même retiré d'une vie vivante pour y revenir pleinement incarné, comme Jésus ou d'autres à sa suite, vivant cette communion chaque jour et pas seulement dans des monastères à la campagne. Voilà, vous l'avez compris Jean-Luc, je souhaite que tous nos auditeurs puissent découvrir une présence au monde qui soit absolument humaine, c'est-à-dire, et là je pense que votre invité ne me contredira pas, qui soit poétique au sens large.
Eh bien, merci beaucoup, Édouard. Une présence au monde poétique, vous validez, j'imagine.
Je valide, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est en fait pour justement me retirer et transmettre toutes ces expériences, ces paroles, ces rencontres, ouais. Pour qu'on puisse en vivre aussi.
Ça fait pleinement écho à tout ce que vous nous avez dit. Il y a aussi d'ailleurs de la poésie dans Les Heures décisives, je le disais tout à l'heure, de diverses façons, et notamment page 116, sous la forme d'une confession de foi personnelle que j'aimerais bien vous entendre nous lire, si vous le voulez bien, pour conclure notre entretien. Alors, je vous ai imprimé le texte, je ne vous avais pas prévenu avant. Le voici, et puis si vous êtes d'accord, on vous écoute.
C'est la confession que j'ai lue à mon baptême, du coup. Ah. Je crois en ce silence que l'on recherche à dire, jusqu'à cet au-delà, jusqu'à sentir parfois la chaleur dans sa paume et un tressaillement qui suffirait pour vivre. Je crois en ces paroles, murmure des veilleurs, simplicité et joie dans la miséricorde. Je crois en ces instants où nous sommes ensemble, où rien d'autre ne compte que de nous enchanter. Je crois à cette croix lorsqu'elle étend ses bras pour accueillir le monde au plus profond de soi. Je crois que, si d'aventure je ne croyais pas, manquerait ce je ne sais quoi à ma vie, ici-bas. Enfin, je crois.
Merci beaucoup Stéphane Bataillon.
Merci.
Je rappelle donc ce livre, ce bel itinéraire de vie, Les Heures décisives aux éditions des Kleebrouwer, mais aussi vos trois recueils de poèmes aux éditions Bruno Doucet, Permettre aux étoiles, Contre la nuit, même quatre, Où nos ombres s'épousent et Les terres rares.
Ça
en fait quatre. Et puis on vous retrouve aussi donc régulièrement, toutes les semaines, dans les pages de l'hebdo La Croix, c'est ça ?
C'est ça.
Au revoir et peut-être à une prochaine fois. Vous
merci
êtes bienvenue.
Beaucoup. Merci.
Alors tiens, encore des livres dans cette page culture. Quatre ouvrages très différents que je vous recommande, bien évidemment. Sous la direction de la Fédération protestante de France aux éditions Biblio, « Comprendre et lutter contre les violences en protestantisme », un ouvrage collectif avec la contribution d'une quinzaine de spécialistes et d'experts de tous les horizons du protestantisme français pour prendre conscience, prévenir, accompagner et reconstruire. Un appel à devenir des artisans de paix dans un monde blessé. Alors en lien direct avec le travail effectué sur ce livre, une info importante aussi qui émane de la Fédération protestante de France, en partenariat avec France Victimes, c'est le lancement d'un numéro national d'appel dédié aux victimes et témoins de violences au sein du protestantisme, 01 80 52 33 89. Dispositif qui a pour vocation d'offrir une écoute bienveillante, des informations, une orientation et un accompagnement professionnel à toute personne s'estimant victime, proche ou témoin de violences. Je rappelle encore une fois ce numéro, 01 80 52 33 89. Chez Labor et Fides, Le temps de la fin de Giancarlo Gaeta, qui propose de mieux cerner la portée des paroles de Jésus quand il parle de temps accompli ou d'un royaume proche. Cette irruption à ses yeux du temps de la fin dans le temps présent, qui conduit ainsi le lecteur vers des moments extrêmes et radicaux des évangiles, mais aussi vers sa propre actualité. Aux arènes BD de Johann Sfar, Que faire des Juifs? Un roman graphique tout simplement exceptionnel, fait de planches aquarellées de plus de 500 pages, qui se veut être à la fois un récit historique et personnel pour tenter de retrouver la lumière. Ce livre inscrit la mémoire dans un processus transgénérationnel. Et puis enfin, un coup de cœur personnel aux éditions Le Mot et le Reste, Bob Dylan, Modern Times, d'Yves Bigot. Alors non pas une biographie, il y en a déjà beaucoup, mais c'est une vraie plongée dans les textes du chanteur populaire, également prix Nobel de littérature 2016. Yves Bigot s'intéresse au rapport de Dylan, à ses inspirations et références culturelles issues de la poésie antique, comme de la littérature moderne et des musiques populaires. Et puis, évidemment, de la Bible qui imprègne toute l'œuvre de Dylan. Un livre purement remarquable que je vous recommande très chaudement. Et puis une autre info, alors là, c'est du théâtre. Le 29 septembre dernier, je recevais Jean-Jacques Néret pour nous parler de sa pièce 1768, Résister, racontant les dernières heures de la détention des prisonnières protestantes d'Aigues-Mortes. Je voulais vous signaler que ce drame en quatre actes sera justement présenté le samedi 5 avril 2025 à 17h au Temple protestant 5 rue des Écossais à Poitiers, ainsi que le samedi 31 mai à 20h30 au Temple de Vabre, près de Castres, et de son musée du protestantisme. C'est une façon aussi de prolonger cet entretien que nous avions eu ensemble dans Soleil. Et pour nous quitter, retour à l'album Degré de John Featherstone et à l'un des aspects de l'expérience racontée ce matin par Stéphane Bataillon, c'est la chanson Viens nous parler. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, une réalisation de Thomas Jost et Claire Levasseur à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h dans Présence Protestante, le magazine Variation Éthique, pour parler de la paix avec les interventions de Salomé Richir Aldeman, Ménonite, James Woody, pasteur de l'Église protestante unie de France, et Nicolas Farelli, président de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et puis à suivre sur Culture, comme vous en avez l'habitude le dimanche matin, les informations et puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wacknin. Nous nous retrouvons cet après-midi à 16h pour le quatrième temps du carême protestant avec Marie-Pierre Courneau. On est toujours autour du personnage de Ruth, un rendez-vous qui aura pour titre aujourd'hui « La nuit ». Tout est permis. Bon dimanche à chacune et chacun.
Espère en toi. Viens nous parler, te révéler à notre esprit, nous visiter, transformer, façonner. Que cueillir le soleil. Mon âme reçoit.